Tous mélomanes, Jacques Nouvier, Éric Rouillet.
Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Éric Rouillet, que vous connaissez bien. Et puis nous avons un invité qui est un pianiste, un grand pianiste, qui s'appelle Billy Heidi. Et on va vous le faire mieux connaître pendant toute cette heure. Quelques mots donc, Éric.
Oui, bonjour Billy.
Bonjour Éric.
Ravi de vous recevoir. Et vous venez de comprendre, il y a seulement quelques minutes que l'émission était diffusée en direct.
Oui, j'ai failli partir.
Alors, vous êtes un pianiste atypique, non pas de la lenteur, mais de la maturation, comme on dit. Et moi, je vous connais, donc je sais qu'il vous faut des années afin de célébrer un projet discographique. Et vous estimez qu'enregistrer un disque nécessite de proposer une imprégnation mûrie des œuvres. Dans cette attitude d'exigence, seriez-vous capable de graver 3 fois l'intégrale des sonates de Beethoven, des sonates pour piano, comme par exemple le fait Daniel Barenboim, avec une discographie pléthorique? Et pourquoi êtes-vous si différent de tous ces artistes?
Si je dois graver 3 fois les sonates de Beethoven, moi je veux bien, mais ça me prendra 120, 130 ans. Je ne les ai pas. Non, la raison c'est qu'un disque... ça devrait être une idée partagée par tout le monde. Le disque reste et on n'a pas envie. Moi, je n'ai pas envie du tout, parce que je ne pourrais pas le faire et je ne dois pas le faire, commencer à regretter ce que j'ai fait un disque au bout d'un an. Je veux que ce qui reste soit pas définitif, ce n'est jamais définitif, mais que je n'ai pas de regrets en disant j'attends l'occasion de refaire telle Fauré ou telle Debussy. C'est fait, donc il faut passer le temps avant à bien préparer plutôt qu'après à se lamenter.
Votre discographie célèbre régulièrement la musique française, notamment Reynaldo Hahn, que l'on considère avec dédain aujourd'hui par rapport à son goût prononcé pour la haute société parisienne de l'époque et ses mondanités, alors je précise qu'il n'était absolument pas un snob. Je rappelle qu'en 1914, il s'était porté volontaire pour l'armée comme soldat et qu'il est demeuré près du front sous les bombardements pendant des mois. Je souhaiterais que vous nous parliez du Rossignol éperdu, ce recueil unique de 53 pièces pour piano. Et Reynaldo Hahn, je crois, précisait qu'il avait entièrement écrit ses œuvres, ses petites œuvres, ses petites pièces, avec des larmes.
Alors, tout d'abord, pour signaler que je faisais un peu, quand j'étais jeune, partie de ces gens qui regardaient de haut Reynaldo Hahn, parce que, un peu bêtement, je ne voyais pas comment, en 1910... pendant que des gens écrivaient des Pierrot lunaires par-ci, par-là, et d'autres œuvres tellement importantes et révolutionnaires de la musique, quelqu'un pouvait ne regarder que vers le 19e siècle et écrire ce qu'il écrivait. Ça, c'était mon idée du début. Et comme tout chez moi prend du temps, avec le temps, je commençais... Non, l'histoire, c'est pas exactement ça. Avec cette idée en tête, je reçois un jour un appel amical et pathétique du petit-neveu ou arrière-petit-neveu de Reynaldo Hahn qui vient me dire après un concert en me disant « Ça fait 10 ans que je suis vos concerts, je vous choisis à vous pour enregistrer Le Rossignol éperdu. » Je prends la proposition, je réfléchis, conseillé par un ou deux amis. Je me dis, je vais me plonger là-dedans. Et je commençais à étudier cette musique pour constater que du moment où on accepte qu'en 1910, on puisse écrire autre chose que le sac du printemps, à ce moment-là, on voit que chez Reynaldo Hahn, on ne peut jamais, mais jamais, surprendre le compositeur, par exemple, en flagrant délit de mauvais goût. Ou même d'extrême facilité. La musique est facile d'écoute, mais pareil, il faut du temps pour entrer dedans. Et le snobisme, c'est de ne pas voir ce qu'il y a comme émotion vraie, comme trouvaille, etc. Et donc le Rossignol éperdu, c'est la grande œuvre de sa vie pour piano, écrite sur 10 années, publiée en 1911, et ça dure 2h15. Et les 20-30 plus belles pièces de ces pièces, de ce cahier, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre.
Alors, Billy Heidi, je propose que nous écoutions votre enregistrement de la pièce intitulée « Hivernal », que Guy Sacre qualifie d'élégie vraiment touchante, plus sensible que sentimentale.
De Reynold Doane, nous écoutions Hivernal, extrait du Rossignol éperdu par Billy Heidi au piano sur un disque timpani. Alors, Heidi, je précise qu'il n'y a pas de H, ça s'écrit E-I-D-I, pour que ce soit bien clair. Voilà. Alors, vous allez tous les deux, là, Eric et Billy, nous entraîner, je crois, dans un autre monde. Dites-nous, Eric, quel est ce monde ?
Mais d'abord, je vais extraire Billy Heidi de l'hiver, puisque c'est sa grande période hivernale, mais nous en parlerons tout à l'heure un peu plus précisément, je suppose. Et nous allons maintenant pénétrer dans un tout autre monde avec Déodat Sévrac et sa musique colorée et personnelle qui exprime les origines de son terroir catalan. Alors par rapport à Reynold Doane, il est, on peut dire, en rupture totale avec le parisianisme. Et on ne s'étonne pas d'apprendre qu'il fut l'élève d'Albéric Magnard, qui revendiquait une aversion envers les institutions et se battait pour une indépendance qui devait d'ailleurs lui coûter la vie en 1914. Alors, Billy Heidi, vous avez consacré un disque à Déodat Sévrac, et il s'agissait cette fois-ci d'exprimer la senteur des paysages, des rivières, des saisons, avec leurs odeurs. Joseph Canteloube proclamait les chants d'Auvergne, et avec Cerdagna et le retour des muletiers, créé par Blanche Selva, je le précise, vous sonorisez toute la Méditerranée. Comment cette musique résonne-t-elle en vous ?
De très près et très profondément. Et la musique de Sévrac est une musique qui réconcilie avec l'homme, avec nos semblables. Elle est bienfaisante. Et elle est, j'aime beaucoup répéter ce que Debussy disait d'elle, elle sent le thym et le laurier. Et très très proche des hommes, c'est-à-dire voilà un impressionniste méridional. Quand chez Debussy il n'y a que des nuages et la mer et des cloches et des feuillages, chez Debussy, chez Sévrac, il y a le gendarme, la naïade, il vit avec les humains de ces villages.
C'est une musique olfactive également, la musique d'Éodat Sévrac.
Ça sent bon, vraiment, ça sent bon.
Alors qu'est-ce qu'on va écouter ?
Eh bien, on va écouter Le Retour des Muletiers.
Thank you.
de Déodat de Sévrac, nous écoutions la dernière des cinq pièces de Cerdagna, qui s'appelle Le Retour des Muletiers. Et c'est donc Billy Heidi qui était au piano, Billy Heidi qui est notre invité. Et là, c'était sur un disque timpani. Et après Déodat de Sévrac, nous allons parler d'un autre compositeur dont je vous ai parlé personnellement à plusieurs reprises, notamment à cause de deux livres absolument formidables qui s'appellent La musique de piano. Alors, Eric, de quoi allons-nous parler exactement? Et alors, de oui, qui surtout?
Alors oui, alors Billy Heidi, il semble improbable dans cette humble traversée de la musique française de ne pas aborder le mystère Guy Sacre. Voilà, compositeur que vous avez enregistré le plus et qui demeure pour moi une énigme à résoudre. Il écrit exclusivement pour le piano ou pour piano et voix, en quantité minimaliste et avec, en plus, de la rétention d'effets. Vladimir Jankélévitch disait à son propos qu'il était rare qu'un musicien sache mettre autant d'idées en aussi peu de notes. Sa musique, moi, me fascine. Elle raconte avec une sorte d'autorité une mémoire fragilisée par la nostalgie insouciante de l'enfance à travers des brumes qui avancent en ligne droite malgré une impression d'indécision. Une puissance émotionnelle et poétique rare qui touche. Et ce fut d'ailleurs, je crois, la raison de notre première collaboration.
Ah oui, c'était... vous en parlez très bien, Eric. Je ne pourrais pas décrire mieux que ça. J'ajoute juste un petit manque, mais c'est normal parce que c'est en fait beaucoup de pièces de piano, beaucoup de mélodies, beaucoup, mais aussi un troisième et dernier pan de son œuvre qui est inconnu parce que, contrairement aux mélodies qui sont presque toutes éditées maintenant, ou des œuvres de piano, ils ne sont pas éditées, ils ne sont même presque pas encore jouées, peut-être une ou deux. C'est une quantité d'œuvres, finalement, il me montre toutes les quelques semaines, des œuvres de musique de chambre, écrites depuis 30 ans jusqu'à très récemment, pour à peu près plein d'instruments. Et des œuvres pas longues, mais quand même, des sonatines, des quatuors, des trios, qui attendent leur jour. J'espère qu'on aura tous assez d'années pour mener à bout ce genre de projet.
C'est une révélation que vous nous faites.
Oui, oui, en fait, il le dit volontiers, il ne cache pas ça, mais comme il n'y a pas de disque à l'appui, il n'y a pas de... Vous savez, c'est difficile de tomber chez des... J'ai eu beaucoup de chance avec mes chanteurs, avec des collègues pianistes aussi, pour jouer sa musique. Plein de gens qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas parmi les jeunes s'intéressent, notamment au Japon. Mais c'est difficile de grouper autour de soi les violonistes, flûtistes, oboïstes, bassonistes, mais peut-être un jour.
Voilà, je dis toujours, moi, que la musique de Guy Sacre est particulièrement complexe et presque sophistiquée, mais qu'elle souhaite laisser entendre une sorte de naïveté et d'oisiveté, et non pas de nonchalance, comme j'ai pu le dire, et nous en avons parlé. Et bien qu'il le réfute, il y a dans sa musique un tourment qu'il rend paisible en lui donnant les saveurs de la gourmandise. Cette apparente simplicité la rend toujours immédiatement accessible. Et pour illustrer mes propos et les vôtres, je propose que nous écoutions le mouvement lent de la sonatine d'été que vous avez enregistré en 2021 pour un disque qui avait été distingué du choc de l'année par la revue Classica. Thank you.
C'était le mouvement lent de la sonatine d'été de Guy Sacre par Billy Heidi au piano. Et là, maintenant, on va changer complètement d'univers, et dans le temps et dans l'espace. Dites-nous un petit peu, Eric.
Oui, nous allons nous éloigner un court moment des compositeurs français et de votre discographie, Billy Heidi, si vous me le permettez. Et j'aimerais proposer à nos auditeurs l'un des disques qui vous a le plus marqué ces derniers temps. Vous m'avez d'ailleurs à plusieurs reprises fait part de votre enthousiasme par rapport au niveau exceptionnel de l'interprétation. Ce sera un peu le trou normand de notre émission. Et vous nous expliquerez, après l'écoute, en quoi cette version est pour vous unique.
Eh bien, de Mozart, nous venons d'entendre le premier mouvement du quatuor à cordes dit les dissonances, Köchel 465, par le Fine Arts Quartet. Alors, c'est une interprétation qui date de 1986 et qui vient de ressortir sous le label du Palais des Dégustateurs. Et Billy, en quoi, pour vous, elle est unique? C'est ce qu'on se disait comme ça, hors micro.
Elle est unique et elle est géniale. En fait, vous savez, je dois vous avouer que comme je suis absolument fou des quatuors de Mozart, logiquement, je déteste les entendre jouer aux cordes. Je les joue à quatre mains, avec un ami pianiste, et c'est tout. Je n'ai pas envie de tous ces violonistes qui grincent, et de ces gens qui conduisent mal, et qui, peut-être qu'ils ont raison, mais qui comprennent Mozart pas comme quand je le comprends. Et là, quand j'ai reçu ce disque, j'ai écouté, et même si je ne parle que de l'introduction lente de ce premier mouvement, je n'ai jamais entendu. J'ai écouté beaucoup ce quatuor, surtout à la réception de ce disque. Je voulais faire une étude comparative chez moi. Et c'est un mot surtout, mot-clé, c'est la conduite absolument royale du début. On entend partout, pardon d'entrer dans des détails techniques, très souvent, do, 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 dans le grave, tous les violoncellistes qui ont envie de vraiment indiquer de manière autoritaire, sans doute pour que ce mouvement redevienne beethovenien, ce qui est le pire adjectif à donner à une œuvre de Mozart. Et eux, c'est vraiment tellement smooth, comme on dit en anglais. C'est vraiment magnifique, c'est admirablement conduit. Ça commence, et à la fin de l'adagio, ils ont dit une seule chose. C'est magnifique. Et puis même l'allegro est très... est magnifique.
Du même niveau. Ouais. Alors, on va revenir à vos disques, Billy Heidi, et vous voulez nous en parler.
Oui, Billy Heidi, il est temps pour nous de rejoindre votre actualité discographique, puisque vient de paraître votre tout nouvel enregistrement avec un CD exclusivement consacré au compositeur russe Anatoli Liadov. Grand ami d'Alexandre Scriabine, et assez renommé à l'époque pour que Diaghilev lui passe commande de l'Oiseau de Feu, qu'il déclinera, enfin on ne sait pas trop comment ça s'est passé, pour laisser le projet à Igor Stravinsky. Il est de nos jours complètement délaissé. Comment expliquez-vous cette disgrâce, et comment pourriez-vous nous présenter ce compositeur?
Alors, le livret le dit mieux que moi, mais j'essayerai quand même d'expliquer un peu. C'est un auteur à qui, je l'ai déjà dit dans des interviews, à qui allait très bien la fameuse phrase de Grieg sur sa musique, qui disait « Brahms et Beethoven construisent des temples et des cathédrales au sommet des montagnes. Moi, je veux construire des petites maisons où les gens sont heureux de vivre. » En fait, Liadov est un humble. La plupart des grands compositeurs, et je ne leur en veux évidemment pas, ne sont pas humbles. Liadov est humble, et c'est comme s'il n'a aucune prétention. Il est superbement doué. Il est comme presque tous les Russes de la fin du 19e siècle. Les dates de Liadov, à peu près, ça doit être 1855, 1914 ou 15, par là, enfin à peu près. Était obsédé par le souvenir de Chopin, et lui est de loin le plus fidèle. Et c'est très touchant de voir ce compositeur qui n'est évidemment pas Chopin, on ne peut pas avoir deux dieux, mais qui sert ce souvenir de l'œuvre de Chopin avec un aussi grand sens de l'équilibre, de la beauté thématique, de la trouvaille d'oreille, de la perfection, tout sonne bien, tout touche.
Alors nous, vous parliez de l'excellent livret de Guy Sacre. Nous y apprenons qu'un critique avait comparé Liadov à un mimosa pudique, alors que Rimsky-Korsakov traitait Scriabine de narcisse. Donc, faut-il accéder à la botanique pour définir ces deux compositeurs et comprendre à quel point ils étaient liés, puisqu'ils étaient très amis.
Très amis, très
voilà,
amis.
Dans leurs différences convergentes, au point de s'admirer mutuellement. Mmh. Alors, est-ce qu'on pourrait dire les excès, la folie, les tourments, l'immodération d'un côté, et puis du côté de Liadov, la retenue, la pudeur, la discrétion, l'économie. Jusqu'à quel point on peut opposer ces deux tempéraments?
Ben, ils sont vraiment très, très opposés. Moi, je suis amoureux des deux. Ma seule autre aventure jusqu'à maintenant dans une musique non française a été Scriabine de jeunesse. C'est le Scriabine que j'aime, le Scriabine post-chopinien, mais ça date de, mon Dieu, 30 ans. Et maintenant, c'est Liadov. Il faut aimer les deux, mais c'est vrai que chez Scriabine, je ne suis pas porté à aimer ce qui, sauf bien sûr quelques pièces de temps en temps. Le Scriabine qui est fêté avant tout partout, c'est le Scriabine de la fin, où ce Scriabine qui devient un peu illuminé innove beaucoup, s'éloigne beaucoup, beaucoup du modèle échopinien et donc liadovien. Mais cette musique-là, à mon sens, se répète.
Mais est-ce que vous auriez pu envisager le trajet inverse, c'est-à-dire de démarrer par Liadov et continuer votre carrière discographique avec Scriabine, ou c'était...
Je vais vous dire pourquoi non. Scriabine est un plus grand compositeur dans l'absolu que Liadov. Ça serait bête de dire le contraire. Mais Liadov, est, malgré une apparente simplicité, est long à livrer tous les secrets. Parce que les secrets que sa musique émotionnelle et d'écriture contient... Et il faut aller les chercher, il faut s'y habituer. La musique ne vous lance pas à la figure les émotions que votre cœur va attraper au vol, comme très souvent chez Scriabine, que j'aime beaucoup.
Une musique de l'enfouissement, un peu.
Oui, et puis elle est parfaite.
Et qu'est-ce qu'on va écouter, alors, parce que on est dans l'impatience, là.
Eh bien, nous allons écouter les deux morceaux opus 24 de Liadov, Prélude et Berceuse. Thank you.
d'Anatoli Liadov, nous venons d'entendre deux morceaux de l'opus 24, successivement Prélude et Berceuse, par Billy Heidi, notre invité, qui est au piano. Et c'est sorti, ça vient de sortir, d'ailleurs c'est une nouveauté du disque, au label Le Palais des Dégustateurs.
Oui, alors Billy Heidi, dans une récente interview pour la revue Pizzicato, vous déclariez que Liadov avait la phobie de l'excès et du banal. C'est un équilibre précaire à trouver.
Très difficile à trouver. Introuvable, sauf par des happy few.
Et donc, dans ces petites formes conventionnelles, cette musique demande beaucoup d'attention pour en apprécier ce calme presque immobile qui possède malgré tout une tension intérieure brûlante. S'agit-il d'exprimer avec le plus de calme possible et de sérénité possible les émotions ?
Pour un pianiste ?
Pour celui qui joue, en fait. Voilà, oui. Pour restituer les intentions du compositeur.
Oui. En fait, il faut s'oublier complètement. Il faut tellement s'imprégner de cette musique. C'est banal ce que je dis parce qu'on fait ça avec n'importe quel auteur. Mais lui, quand on déchiffre sa musique, on ne pense pas qu'on va avoir l'obligation de passer par ça. Parce que je vous avoue que la moitié de ses pièces, n'importe quel pianiste qui déchiffre bien peut les monter en quelques jours, en fait. Ça ne va pas que dans la difficulté, c'est pas les études de Chopin. Mais c'est là que commence la longue et lente ascension vers ce qu'est ce morceau. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, désolé, mais on ne peut pas le faire vite. C'est la musique qui doit peu à peu, mais très lentement, s'imbibe peu à peu, et elle vous entre ou pas dans le corps et dans la tête et dans le cœur.
Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite la Mazurka rustique, qui est extraite des deux morceaux de l'opus 31. Thank you. d'Anatoli Liadov, nous venons d'entendre la Mazurka rustique, opus 31, par Billy Heidi au piano, et c'est sorti sur un disque du Palais des Dégustateurs. Ça vient de sortir, comme je le disais tout à l'heure.
Oui, Billy Heidi, que ce soit avec Le Rossignol est perdu de Reynaldo Hahn, les œuvres d'Eodat Sévrac, de Guy Sacre, et puis maintenant d'Anatoli Liadov. Nous sommes toujours dans des œuvres de petite forme qui renferment des espaces infinis malgré tout. Vous semblez à l'aise coincé dans ces petits périmètres réduits qui permettent de grands départs vers le large. Alors, à quoi attribuez-vous ces affinités? Avez-vous peur du vide ou avez-vous des angoisses particulières?
J'ai peur de perte de temps. Une œuvre petite pour les compositeurs qui savent les réussir, Chopin, Schumann, Liadov, Guy Sacre, Bach dans ses préludes et fugues, racontent tout ce qu'ils ont à raconter en peu de temps. Et c'est une forme difficile, un défi en fait. Je ne dis pas que c'est plus facile de jouer des petites formes qu'une grande sonate, plus difficile je veux dire, mais je vais finir par le penser, parce que chaque fois que je parle d'un pianiste qui me parle de Chopin par exemple, les pianistes sont convaincus que la grande difficulté, c'est les 24 préludes, qui sont 24 instantanés. En fait, la difficulté de la petite forme, et j'adore cette difficulté, j'adore ce défi, c'est qu'il faut dire tout et beaucoup de choses en vraiment peu de temps. Et, vous savez, c'est pour la même raison que je préfère le piano à peu près, j'ai calculé, 1 200 000 fois à l'orchestre.
Parce
qu'à chaque fois que, je ne parle pas de n'importe quelle œuvre d'orchestre bien sûr, mais même dans les grandes symphonies, les compositeurs s'obligent, ils ont une heure devant eux, j'ai parfois l'impression que quelqu'un est dans la salle, il sort manger un petit sandwich, il revient, la symphonie est toujours là, il a perdu 2 minutes, mais la symphonie est toujours là. Oser faire ça pour une petite pièce, vous en manquez 3 à la fois. C'est vraiment cette densité. Les compositeurs n'écrivent pas pareil. Ils écrivent... Quand Schumann écrit David's Bündler et que chaque pièce dure 1 minute, 1 minute 30, il met l'âme en entier dans cette minute et demie. J'aime ça.
Alors, c'est vraiment passionnant, mais le temps passe, malheureusement, et on n'a pas encore parlé de vos projets. Mmh. Et je crois que vous en avez plusieurs, alors des projets discographiques
alors,
déjà.
On a beau me traiter de lent, d'ailleurs c'est l'adjectif que j'aime le plus chez moi, je suis très lent pour les projets, mais ça ne veut pas dire que je fais un projet à la fois, c'est vrai. Il y a un projet qui va devenir réalité bientôt, mais il est déjà enregistré, il y a 2 jours, 3 jours, j'ai fini avec mon complice Jean-François Rouchon, l'enregistrement du Voyage d'hiver de Schubert. Encore un disque pas français. Le bon Dieu me pardonnera, j'espère. Et puis, il y a 2 retours chez les Français avec 2 projets discographiques auxquels je tiens vraiment beaucoup. Les 2 un peu, nouveautés. Des choses jamais ou presque jamais enregistrées. Panorama de l'œuvre pour piano, donc je ne mettrai pas tout, mais une grande partie de ce que le grand musicien qui était Daniel Le Sûr a écrit pour le piano.
Et ça encombre pas les bacs des disquaires, ça?
Là, on voit pas. Moi-même, je voulais écouter pour m'aider à mes choix. En fait, je ne m'aide que moi-même en déchiffrant les morceaux. Daniel Le Sûr. Et puis, retour à des mélodies françaises, un troisième disque de Guy Sacre, qui va reprendre peut-être 1 ou 2 titres des anciens disques. Ça va être de nouveau au Palais des Dégustateurs, donc un nouveau label, et avec notamment Poil de Carotte, qui est la condition, j'ai l'impression, que mon nouveau producteur me montre à la gorge pour faire ce disque. Je suis ravi.
Mais on sera ravi de l'écouter. Voilà. Et pour l'instant, je vous propose d'écouter une dernière pièce du disque Liadov qui vient de sortir, la Mazurka opus 38 de Liadov, donc comme je le disais à l'instant. Eh bien, d'Anatoli Liadov, nous venons d'entendre de larges extraits, hein, presque intégralement, la Mazurka opus 38, par Billy Heidi au piano. Billy qui était notre invité, que je remercie d'avoir bien voulu venir jusqu'à Lyon.
Merci à vous,
Jacques. Et merci aussi, Eric, d'avoir animé cette émission avec moi.
Merci de m'avoir proposé d'inviter Billy.